quelqu'un fait la prière au nom de tous, il faut que tous les autres disent qu'ils sont d'accord et ils disent Amen. Voilà, bonsoir et heureux de me retrouver avec vous ce soir et heureux également de faire connaissance avec ceux d'entre vous qui sont venus nous rejoindre. Voilà, depuis dimanche, nous abordons la question de la famille. Et nous avons parlé dimanche matin, dans l'introduction de ce qu'était la famille, son origine, comment les choses se sont passées. Dimanche après-midi, on a parlé des enfants par rapport à l'Évangile et leur destinée de rencontrer le Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Hier soir, nous avons parlé des relations familiales, des relations du couple avec tout leur entourage, les amis, non-croyants, les amis croyants, la belle famille, etc. Ce soir, il est question d'aborder le sujet particulier, c'est-à-dire le couple avec les conflits, les dangers qui le menacent, les conflits, et on va surtout se pencher aussi sur la solution. C'est bien beau de regarder les conflits, mais le mieux, c'est de trouver la bonne solution. Voilà, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas des écrits sur ces conférences? Oui, il y a un livre sur ces conférences qui est écrit. Voilà, je n'en ai pas avec vous parce que je ne les ai pas commandés, je n'avais pas des moyens dans mes bagages d'amener des livres, ça aurait fait beaucoup d'argent, ça m'aurait coûté très cher. À Brest, il y a 15 jours, on m'a demandé également s'il y avait également des livres et ils ont passé une commande déjà de livres que je dois transmettre. Alors l'éditeur, c'est un éditeur qui est en Allemagne, à Sarrebruck exactement, ça s'appelle La Croix du Salut, et ils ont un inconvénient, c'est que le livre est un peu cher. L'éditeur le vend à 19,80 €, mais moi je le vends à 17 €. Vous comprenez qu'il m'envoie un stock à bois avec une ristourne en tant qu'auteur. Alors je suis prêt à commander, vous en faire livrer un nombre, il faudrait vous faire inscrire. Voilà, je répète qu'il sera à 17 €. Hein, voilà, vous y pensez bien. Alors ce livre retrace la totalité de cette conférence, hein, même une cinquième qu'on ne fera pas avec vous, que j'appelle la destinée de la famille. La destinée de la famille, c'est-à-dire le plan de Dieu, le plan de bénédiction de Dieu en faveur des familles. Il y en a d'autres qui souhaitent avoir le diaporama. Vous pouvez également le posséder, vous verrez avec les habits qui sont là-bas, il paraît que même c'est enregistré. Alors voyez avec eux ce qui concerne ici. Je me suis bien expliqué ? C'est bon ? Voilà, et bien que Dieu nous bénisse ce soir, car nous abordons un sujet quand même qui est douloureux. Demain soir, on va parler du divorce. On parlera du divorce et également du remariage des divorcés. Et nous savons combien le divorce, c'est une catastrophe. C'est quelque chose de terrible à vivre. Ne le perdons pas de vue. Si le divorce fait verser beaucoup de larmes, le divorce fait jaillir beaucoup de haine, beaucoup de rancœur. Et c'est quelque chose de terrible. Et c'est pour cela qu'on va déblayer le terrain un peu ce soir en abordant les conflits dans le couple. Car hélas, nous sommes surpris de découvrir que Dieu qui a béni la famille, eh bien la famille quand même, elle est confrontée à des conflits. Et ça s'explique un petit peu quand on réfléchit, on s'aperçoit que qu'est-ce que c'est qu'un couple ? C'est un homme et une femme. C'est pas deux hommes ou deux femmes, c'est un homme et une femme. Est-ce que je me suis fait comprendre ? Voilà, ça c'est le couple, c'est la famille. Cette famille-là, elle engendre des enfants. Les autres, ils sont obligés de les acheter. C'est différent, vous voyez, c'est tout à fait différent. Alors ce soir, nous abordons ce couple que Dieu a créé, et qui pourtant, en s'unissant, se l'ont fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, et puis au bout de quelque temps, ils découvrent que, ma foi, ils arrivent à avoir des discussions, et selon comment on laisse faire les discussions, elles virent parfois au drame, et ça, on va essayer de l'éviter. Alors, nous abordons ce sujet, il est très simple, vous allez voir. La famille, le lieu de vie par excellence. On l'a dit, je vous l'ai expliqué. En effet, c'est dans ce lieu que se manifeste l'amour, que se manifeste la tendresse, que se manifeste l'encouragement, etc., etc. Voilà pourquoi la famille, c'est le lieu de vie par excellence. Alors, je dis ceci. Le couple est une institution divine. Pour les amis qui viennent nous rejoindre ce soir, nous avons pour base de référence la Bible. La Bible, pourquoi? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Les gens me disent, mais c'est des hommes qui ont écrit ce livre. C'est exact. C'est des hommes qui ont écrit. Mais l'apôtre Pierre nous l'explique. Ces hommes ont parlé, l'ont écrit, poussés par le Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà pourquoi cette parole, c'est la parole de Dieu qui est vivante, elle est éternelle. Là, on a essayé de la détruire par tous les moyens, en brûlant des quantités de Bibles, mais il y en a toujours quelques-unes qui sont sorties. En voulant la détruire, en détournant l'essence même des mots, mais la Bible est toujours là. Alors si vous n'avez pas une Bible et que vous souhaitez en avoir une, certainement vous en trouverez au comptoir de librairie. Donc, le couple qui est une institution divine, on dit cela parce que c'est écrit dans la Bible. Le couple est l'objet de l'amour de Dieu, de sa sollicitude et de sa fidélité. Il faut que vous sachiez, Dieu l'a dit par cette fois dans la Bible, toutes les familles de la terre seront bénies. Il fallait le crier plus fort parce que c'est une bonne vérité ça. Et oui, Dieu a béni les couples. Voilà pourquoi je dis, il est l'objet de l'amour de Dieu, de sa sollicitude et de sa fidélité. Le couple, sachez que Dieu a placé le couple sur une base solide et il l'a confié à la sagesse de ses conjoints. La base pour le couple, elle se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est un livre qu'on lit, que nous lisons. C'est un livre que nous croyons. Et nous recevons et gravons dans notre cœur les enseignements de ce que contient ce livre. Et ensuite, eh bien, c'est la base du couple. Si vous vivez, si vous pratiquez ce que dit ce livre, vous verrez que c'est formidable. Par contre, il est confié à la sagesse des conjoints. Ça dépend de l'usage que vous en ferez. Quand vous achetez l'automobile, vous avez remarqué, vous avez un livre qui vous indique, vous achetez un appareil quelconque, on vous donne le mode d'emploi, comment il faut s'en servir. Et si vous vous en servez dans les règles, l'appareil risque de durer longtemps. Si vous faites n'importe comment, vous risquez de l'user avant l'heure. C'est pourquoi il faut savoir que ce que Dieu a dit, et agir selon ses enseignements. C'est ce que je viens de vous dire. Voilà, tous ceux qui ont franchi le cap de la rupture, voilà, nous en arrivons à une étape difficile. Parfois la rupture, elle se fait sous le même toit. C'est-à-dire, il y a eu un tel conflit entre le mari et la femme, on habite encore ensemble, on vit dans la même maison, mais le fil, le cordon conjugal est en très 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 mauvais état. On ne se parle plus ou on se parle mal, on se fait des scènes, l'affection n'y est plus, les enfants sont perturbés dans ce climat, et alors certains en arrivent au cap de la rupture. Je vous dis, ils sont encore dans la maison, mais la rupture est faite. Et certains vont plus loin, ils arrivent au divorce. Et avec les dramatiques conséquences, car le divorce a de dramatiques conséquences. D'abord, c'est l'humiliation. On a honte de ce que son foyer est cassé. On a tellement dit qu'on s'aimait, et puis que ça ne marche plus. Il y a de l'amertume dans le cœur de ceux qui vont se séparer. Il y a de la rancœur. Il y a de la haine. Vous avez appris par des faits divers que c'est allé même jusqu'au meurtre. Il y a des déchirements, des situations matérielles difficiles. On a investi un capital monstre dans l'achat d'une maison, dans la construction d'une maison, et puis on la brade, parce que souvent, quand les couples divorcés vendent leur maison, ça fait le bonheur de quelques-uns, mais pas d'eux. Ensuite, il y a les enfants perturbés. Papa, maman, ils ne savent plus où donner de la tête. Alors, c'est un malheur. Mais on en parlera plus en détail demain. Alors, ces croyants-là doivent se ressaisir et mettre tout en œuvre afin qu'avec la grâce de Dieu, ils rétablissent un couple stable. Je crois à la restauration des couples. Je crois à la puissance de Dieu pour rétablir les couples les plus déchirés, les plus meurtris. Demain soir, je vous donnerai des témoignages. Vous verrez comment Dieu a fait des choses inouïes, des choses extraordinaires. Alors, mes amis, je demandais à Dieu de me bénir pour que je vous annonce la chose d'une manière assez efficace. Et vous, demandez à Dieu de vous bénir pour que vous saisissiez l'enseignement. Parce qu'il m'arrive d'être maladroit de temps en temps dans mes interventions. Alors, comment construire et vivre sa vie familiale sur des bases solides? C'est la question que je vous pose. On va essayer de vous aider quand même dans ce domaine-là. Comment affronter les passages difficiles? Car, hélas, il y a toujours des passages difficiles. Ensuite, comment traverser les conflits, mais surtout les régler? Car avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Je sais que vous avez l'air de dire, mais regarde tous les couples en la dérive. Mais je ne regarde pas les couples à la dérive, je regarde à la parole de Dieu. Car Dieu est celui qui répare des ruines, c'est formidable. Je dirais même qu'avec des ruines, il fait du neuf. Comment surmonter les échecs, c'est-à-dire le divorce? Est-ce à dire qu'après une rupture, un divorce, le couple peut se rétablir? Je ne sais pas si vous en dites, mais moi je crie très fort, oui! Et je connais des cas qui se sont produits, qui se sont réalisés, que Dieu soit béni. Alors, cette parole de Dieu que nous avons déjà vue à plusieurs reprises, et je la reprends ce soir, regardez bien, dans l'Épître aux Hébreux, c'est un livre de la Bible, au chapitre 13, verset 4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal, exempt souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. En principe, on dit que la Bible, c'est pour les croyants. Et c'est vrai, nous les croyants, nous épuisons tout le nécessaire pour affermir notre foi et voir ce que Dieu attend de nous pour lui plaire. Mais quand il est dit ici « tous », il s'agit des croyants, mais il s'agit aussi des non-croyants. Alors si vous êtes parti des non-croyants, c'est le choix que vous avez fait, vous ne pensiez pas qu'on pouvait être autre chose, sachez que le Seigneur vous dit, avec bonté, avec amour, que le mariage soit honoré de tous. Le lit conjugal exempt souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Attention, je le répète, je l'ai déjà dit, l'acte sexuel d'un couple marié n'est pas un péché. C'est un acte d'amour, c'est un acte sublime où l'un se donne à l'autre et où, voilà. Par contre, aujourd'hui, suite à tout un tas de publicités, des médias et compagnie, souvent le lit conjugal qui devrait être, un tabernacle d'amour, il est souvent un lieu de débauche et d'adultère, mais je ne m'arrête pas là-dessus ce soir, on en a déjà parlé un petit peu. Alors, nous retenons ceci, également, le couple idéal, c'est le programme de ce soir, hein. Le couple idéal, les dangers qui menacent le couple, comment résoudre les problèmes, et quatre points forts. Ça, c'est les quatre chapitres de notre réunion de ce soir, de notre méditation de ce soir. Alors, quand nous disons le couple idéal, nous découvrons celui que Dieu a voulu. Un jour, Dieu a décidé ceci. Au début, vous voyez, Genèse 1, c'est tout au début de la création. Le ciel, la terre ont été construits, les animaux sont là sur la terre, la verdure également. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il faut que vous sachiez que la personne que vous êtes, que Dieu a créée, il l'a faite à son image. Vous allez dire, il me ressemble physiquement. Non, pas physiquement. Mais Dieu a des valeurs, des vertus, des qualités extraordinaires qui sont d'une noblesse incomparable. Et quand il dit que Dieu a voulu faire l'homme à son image, à sa ressemblance, il veut que nous ressemblions, vous et moi, à Dieu. Parce que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu est fidèle. Dieu, et j'en finirai pas de vous parler de ce Dieu si puissant, si merveilleux. Alors il a créé Dieu, l'homme et la femme. Et l'Écriture dit ceci plus loin. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte de l'homme qu'il avait prise, il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui ose de mes os, chair de ma chair. Effectivement, Adam n'avait pas trouvé parmi tous les animaux qui avaient défilé devant lui, à auquel il a donné un nom, il n'a pas trouvé un être semblable. Et sans doute, il s'est plaint, et Dieu a décidé donc de créer, de former cet homme qui va devenir, cette personne qui va devenir cette partie. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur ? Dès que l'homme a été créé, le couple a été créé, Dieu les bénit. Lorsqu'il créa, Dieu créa l'homme et la femme, il le fit à la ressemblance de Dieu, je viens de vous le dire, et regardez bien la suite, Genèse 5, verset 1. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme. Pourtant, il est question d'une femme, lorsqu'ils furent créés. Ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Que les femmes sont des hommes ? Pas du tout. Mais ici, ça veut dire, il leur donna le nom d'homme, le nom de humain, si vous préférez. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, nous sommes tous des humains. On ne va pas s'attarder là-dessus, c'est car on va aller plus loin que ce qui va nous concerner ce soir. Alors, il y a une chose que Dieu a prévue, c'est l'intimité du couple. Et oui, c'est quelque chose de riche, l'intimité du couple. Peut-être vous ne savez pas vivre votre intimité. Il y a souvent des couples qu'il faut qu'ils se reçoivent, ils ont besoin des amis, constamment ils sont ensemble, et leur temps d'intimité, ils ne savent pas parler entre eux, ils ne savent mieux parler qu'avec les autres. Et ça, c'est pas toujours prudent. C'est pour ça que l'Écriture dit, c'est Dieu qui l'a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Vous avez remarqué, c'est répété dans Matthieu 19, 5, Marc 10, verset 7, et en Corinthiens 6, le verset 16. Voilà donc ce que Dieu a décidé. Et alors cet homme et cette femme qui ont décidé de se marier. Et savez-vous que Dieu les avertit ? Tu veux te marier ? Pourquoi pas ? J'ai créé l'homme et la femme pour cela. Mais regardez ce que Dieu ajoute. 1 Corinthiens 7, 28, il est écrit ceci. Mais ces personnes, en parlant des gens qui se marient, auront des tribulations dans la chair. Eh oui, des tribulations dans la chair, pas des persécutions, mais des tribulations. Qu'est-ce que c'est qu'une tribulation ? Ce sont toutes ces choses qui vous compliquent la vie, qui vous agacent, qui vous exaspèrent, hein, qui deviennent des tracasseries en quelque sorte. Et pourquoi ? Pourquoi il y a des tribulations ? Regardez la vérité. L'Écriture dit en Corinthiens 7, verset 32-34, « Celui qui est marié, il s'inquiète des moyens de plaire à sa femme. Celle qui est mariée, elle s'inquiète des moyens de plaire à son mari. » C'est pas comme ça ? Et ça, c'est pas évident, dites-moi. Quand après avoir aimé une personne à la folie, si je puis dire, et que on est là... On s'aperçoit que elle est pas contente, la femme n'est pas contente, l'époux il n'est pas content, ils ne savent pas très bien, alors l'autre ça l'aperçoit, et il va essayer de faire des efforts. Tout le monde fait des efforts pour plaire à l'autre, car on veut que le couple fonctionne bien. Oui ou non ? Vous faites exprès de déplaire à votre mari, les dames ? Mais non, allons donc ! Et vous les hommes, vous faites exprès de déplaire à votre épouse ? Mais non plus ! Mais vous avez remarqué que c'est quand même pas facile. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que tu me reproches ? Combien, si on pouvait enregistrer ici toutes les fois que cette parole sont dites dans les maisons, vous verriez, il y aurait du bruit dans l'église ce soir. Alors une parole de Dieu. Éphésiens 5, 25, il est écrit ceci. Retenez-le bien. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle. Voilà les hommes, nous avons un devoir impératif, d'aimer notre femme, comme Christ a aimé l'Église. Alors je ne vais pas m'inspirer des démonstrations d'amour des uns et des autres, je regarde comment Christ a aimé l'Église. Et il nous est dit en effet quelque chose de grand, il est dit, sauf erreur, il est dit ceci, que Christ s'est livré lui-même pour l'Église. Et il s'est livré où ? Dans la crèche ? Mais non, c'est sur la croix du calvaire. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a expié toutes les fautes, tous les péchés, tous les défauts, toutes les imperfections de l'être humain, car le salut de Dieu a la capacité de faire de chacun de vous une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, elles sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors si jusqu'à ce jour, votre vie a été saccagée par toutes sortes d'imperfections, de désordres, d'immoralités, et j'en passe, placez votre confiance, votre foi dans le Christ Jésus. Reconnaissez qu'il est votre sauveur personnel. Demandez-lui de pardonner vos fautes et il va tout changer. Et vous, ainsi, vous allez pouvoir aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église. J'ajoute entre parenthèses que la meilleure des Églises a des imperfections, à part celle d'Annecy, bien sûr. Qui, elle, qu'est-ce que j'ai pas dit ce qu'il fallait? Ah bon? Voilà. Vous avez quelques problèmes, vous aussi? Et vous savez que le Seigneur vous aime quand même? Que son saint nom soit béni. Alléluia! Voilà. Eh bien, le mari, c'est pareil. Il aime sa femme, malgré ses imperfections. Voilà. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Eh oui, il vient un moment que ça s'agace. Mais vous savez, je crois que les dames, elles peuvent prendre à leur compte les mêmes choses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est ce que je pense très sincèrement. Alors, problème de couple. Est-ce que vous acceptez que l'on regarde en face les problèmes qui surgissent dans les couples? On ferait une liste très 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 longue. Mais j'ai relevé quelques cas de figure qui se retrouvent par-ci, par-là. Alors écoutez bien, et si vous vous sentez concerné quelque part, eh bien prenez à cœur ces choses et demandez au Seigneur de vous aider. Voilà ce que nous allons voir. Un des premiers problèmes du couple, je dis, c'est le manque de vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle? C'est notre vie en relation avec Dieu. C'est notre vie qui concerne notre foi. C'est notre vie qui concerne notre espérance en Dieu. C'est cette vie qui fait de nous des gens sanctifiés. Et alors, pourquoi il y a ce manque? Parce que d'abord, elle est personnelle. Il faut que chacun, le mari de son côté, l'épouse de l'autre, ait sa relation personnelle avec Dieu. Ne comptez pas sur votre épouse pour que la piété soit dans votre maison, ou sur votre époux. Il faut que chacun ait sa vie de son côté, mais également la vie de manque de piété familiale. Et oui, il y a des maris et femmes qui n'osent pas prier ensemble. Pourquoi? Je n'ai jamais rien compris à cette affaire-là. Voilà, les maris, ils ont honte de prier devant leurs femmes. Les femmes prient plus facilement devant leur mari, mais c'est comme ça. Et le manque de piété. La piété, c'est la pratique de notre culte envers Dieu. C'est pour ça que notre piété nous amène le dimanche au culte. Notre piété nous amène à lire la Bible. Notre piété nous amène aux différentes réunions de l'Église. Et on y vient avec amour, parce que on sait que c'est là le personnage important, le plus important dans une réunion, que vous le vouliez ou non, c'est Jésus. Car il a dit, je suis là au milieu de vous, chaque fois que vous êtes réunis à deux ou trois. Un deuxième, c'est le manque d'intimité dans le couple, le manque de parole ensemble et le manque de prévenance. Et oui, qu'est-ce que c'est que la prévenance? Ben, c'est la politesse, c'est la délicatesse. Et ça, je crois qu'il faut en tenir compte. C'est pas parce qu'on est mari et femme qu'on ne se dit plus s'il te plaît. Merci. Ce n'est pas parce qu'on est marié femme et qu'on se voit tous les jours qu'on ne se dit pas bonjour le matin en se levant, bonsoir le soir en se couchant. Ce n'est pas parce qu'on est marié femme que on passe devant sans rien dire comme ça. Et je pourrais continuer longtemps. La prévenance qu'on exerce à l'égard des personnes, parce que nous les considérons peut-être distinguées, eh bien, il ne faut pas l'oublier envers son conjoint. Le manque également d'aide mutuelle. Il y a un travail monstre dans une maison. Le rangement, le nettoyage, et j'en passe, la cuisine, et j'en passe de tout cela. Eh bien, il faut que tous les deux y mettent la main à la pâte. Il paraît qu'aujourd'hui, davantage, les hommes y mettent la main à la pâte. Il y a ensuite, surtout, le manque de dialogue. Parler avec l'autre, parler de sa propre vie. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Tu as l'air tristouné? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, parler. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a ensuite le manque de confiance mutuelle, confiance en son mari, confiance en sa femme, et parfois au niveau de la gestion du budget. Aujourd'hui, la vie est chère, et parfois, on se demande où est passé l'argent, on ne comprend pas. Et il y a des reproches qui sont adressés à l'un et à l'autre, qui sont parfois fort désagréables. Il y a également la jalousie. Quelqu'un m'a dit un jour, mais pasteur, Dieu a dit lui-même qu'il est jaloux. C'est vrai, Dieu le crie très fort, je suis un Dieu jaloux. Mais ne confondez pas la jalousie de Dieu avec la vôtre. La jalousie de Dieu, c'est quand il voit que son disciple, son enfant, l'abandonne pour se tourner vers des choses mauvaises. Et c'est ça sa jalousie. Or dans un couple, il y a cette jalousie normale, parce qu'on découvre l'infidélité du mari ou l'infidélité de l'épouse. Et là, cette jalousie-là, c'est pas un péché, elle est normale. Parce qu'un mari, ça se prête pas. Une épouse ne se prête pas non plus. C'est dur ce que je dis ? C'est comme ça. Mais je parle de la jalousie ici, celle qui soupçonne le mal. Il y a des gens fort mal intentionnés qui, pensant bien faire, disent à l'épouse, « Eh, tu devrais surveiller ton mari. Qu'est-ce qu'il a ? Je te le dis pas, surveille-le. » Imaginez-vous toute la catastrophe, la suspicion. Allez, je vais vite parce que, vous voyez, ça fait mal ce passage. Il y a également l'éducation des enfants, la fermeté, la sévérité, les préférences. Eh bien, vous savez que ça ne travaille pas pareil, le papa et la maman, dans ce domaine-là. Il y a ensuite le cadre de vie du couple, c'est-à-dire le désordre dans la maison, le partage des travaux, le choix du cadre de vie. Eh oui, c'est facile de mettre du désordre, vous l'avez remarqué ? Il suffit qu'à la fin d'un repas, personne ne range la table. Il suffit que même si on pose la vaisselle sur l'évier, personne ne s'en occupe pour la mettre ou dans la machine ou de la laver. Il suffit que personne ne repasse, que personne ne ramasse les choses qui traînent. Vous avez remarqué ? Et vous savez, il ne fait pas bon vivre dans une maison en désordre. C'est une erreur que la femme attende du mari. C'est une erreur que le mari attende tout de son épouse. Vous le comprenez très bien. Le partage, le choix du cadre de vie. Jusqu'à où est-ce qu'on va habiter, comment on va construire la maison, quelles couleurs on va mettre sur les murs, qu'est-ce qu'on va mettre au sol. Ça fait des conflits, cette affaire-là. C'est bien de construire une maison, mais il y a des dangers. Il y a la maladie, le chômage. Voilà une passe très dure. Parce que là, il y a de la fatigue. Il y a des problèmes financiers. Souvenez-vous que dans la maladie et le chômage, il y a eu des divorces. Tant que le conjoint est en bonne santé, on était heureux de le garder. Tant que le conjoint travaillait, la paye rentrait à la maison, on était content de le garder. Mais c'est un genre de beaucoup de ruptures. Il y a également le manque d'expérience du couple, de l'autre, de la vie domestique. Eh bien oui, il faut que découvrir un homme, une jeune fille, devenir femme. Il faut découvrir ce couple. Et cette vie domestique, cette vie ensemble, il faut la découvrir. C'est autre chose que de se retrouver autrefois, avant le mariage, lors des sorties, avec les copains et les copines. On va aller vite. Je voudrais m'arrêter ici sur l'infidélité. L'infidélité, les amis. Préférer des amis à son conjoint, c'est quelque chose de grave. Les repas et les soirées, c'est des choses qui durent longtemps, où l'on dit des choses qui débordent, où l'on fait des choses parfois qu'il ne faut pas faire. L'inceste, il y a l'inceste père-fille. Plus rare, il y a l'inceste mère-fils. Nous avons rencontré cela lors de nos conférences. Il y a également l'adultère. Et enfin, il y a l'homosexualité. Découvrir que son mari est un homo, découvrir que sa femme est une homosexuelle, ça fait mal, ça vous détruit, c'est de l'infidélité. Il y a la violence. D'abord, elle est verbale, des paroles vives, des paroles méchantes. Après, elle devient physique, avec des bousculades. Après, ça devient des coups. Une gifle, peut-être plus. Et parfois, parce qu'on s'est tellement dit des choses mauvaises, parce qu'on a eu des attitudes mauvaises, parce qu'on a eu peut-être une gifle, on arrive au viol. Pourquoi le viol ? Parce que quand une femme a subi tous ces outrages, elle n'a pas envie de se donner à son homme le soir. Oh, lui, il a besoin de satisfaire une pulsion, et il a besoin de trouver une femme qui se soumette. Mes amis, Le couple, ce n'est pas un lieu de prostitution et de viol. J'ai un document qui parle du viol qui se fait en France, et c'est considéré, même mari et femme, comme un délit, et c'est puni par la loi. Il y a les loisirs, littérature, spectacle, vacances en milieu impie ou immoral. Eh oui, c'est là que se détruisent également les relations intimes du couple, parce qu'on s'inspire de certaines littératures, on s'inspire de certains spectacles. Et les vacances en milieu impie, quand je regarde des reportages sur la plage ou sur les skis, ou au ski, il me semble qu'il y a plus de monde là que sur les Champs-Élysées. Vous avez remarqué ? Et si les gens prennent des vacances là, c'est leur goût, c'est leur affaire. Allez, on va arrêter maintenant. J'ai été méchant, hein. Vous devez dire, si tu n'as que ça à nous dire, on va essayer d'aller plus loin, vous allez voir. On va essayer de découvrir les choses. Là, on va essayer de résoudre les problèmes, congénérer toutes ces imperfections. Alors, les problèmes, je dis tout de suite, ils doivent être pris au sérieux. Il y a des gens qui disent, oh, ça va s'arranger, ça va passer. Non. Occupez-vous des problèmes, c'est plus sérieux que ce que vous pensez. Pensez qu'ils vont se résoudre par eux-mêmes. Oui, mais le temps va passer, on va mûrir, et ça va s'arranger. Parfois, ça s'améliore, mais ça ne s'arrange pas vraiment. La solution est en priorité entre les mains du couple lui-même. C'est eux qui se heurtent, et c'est eux qui doivent se réconcilier, s'harmoniser. Et enfin, dans les cas les plus graves, il faut avoir recours à un médiateur. Votre couple est en difficulté, en charivari, ça va mal, vous n'arrivez pas à vous en sortir tous les deux, cherchez quelqu'un pour vous aider. Peut-être les parents déjà, s'ils sont assez raisonnables, comme on en a parlé hier. Et ça peut être également un autre couple d'amis, comme vous. Ça peut être aussi le pasteur, avec son épouse, des croyants de l'Église. Essayez de trouver quelqu'un pour vous aider. Il faut arranger cela, car avec Dieu, je le crie très fort, ça s'arrange. Résoudre les problèmes. Il faut s'exhorter mutuellement. Savez-vous ce que veut dire le mot exhorter ? Vous ne savez pas ? C'est faire appel au sentiment du cœur de l'autre pour l'amener à faire ce qui est bien. C'est-à-dire de ne pas le taper dans l'esprit pour qu'il dise ben, « je vais le faire », comme disait, me disait une personne, « Pasteur, il faut le faire, mais je le fais, mais c'est pour le Seigneur hein. ». Avec avoir un petit peu l'enthousiasme qu'il y avait. Non, s'exhorter mutuellement. En effet, la parole de Dieu nous le dit. Hébreux 3:13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, il faut le faire, chaque jour si c'est nécessaire. Allez, chaque soir, se dire entre le mari et la femme, allez, va. En avance, mets-y ton cœur, tu vas voir, ça va marcher. Prends courage, je serai là pour t'aider, t'encourager et t'aider. Et l'Écriture dit, chaque jour, oui, mais aussi longtemps qu'on peut dire, pourquoi aujourd'hui ? Mais parce que demain, tu ne sais pas si tu auras réparé ton couple. Demain, si tu ne sais pas si tu te seras réconcilié. Alors que l'Écriture est formelle, que celui qui veut rentrer au ciel, il faut qu'ils se réconcilient avec ceux avec lesquels ils sont fâchés. Hébreux 10, 25. Exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que, vous voyez, s'approcher le jour. Et là, c'est réciproquement le mari qui exhorte la femme qui exhorte le mari. Les deux ensemble qui s'encouragent. Regardez, d'autant plus que, vous voyez, s'approcher le jour. Quel jour ? De quel jour s'agit-il ici ? Du jour où Jésus va venir. Il l'a dit lui-même, qu'il va venir bientôt, et il va venir comme un voleur dans la nuit. Résoudre les problèmes, il faut se reprendre mutuellement. Eh oui, ton mari t'a fait du mal, il faut lui dire, mais ce que tu as fait, c'est pas bien, ce que tu as dit, c'est pas bien. Ou c'est le mari qui doit le dire à l'épouse, vous voyez ? Ça m'a blessé, ça m'a affligé. Regardez à l'effet, c'est la Bible qui le dit, Matthieu 18, 15. Si ton frère, on va y mettre ton mari ou ta femme, vous êtes d'accord ? Vous n'avez pas l'air décidé, et pourtant c'est ça. Si ton frère a péché, va et reprends-le, non pas avec toute la famille, devant tout le monde, mais entre toi et lui seul. Quand il y a un problème, réglez-le entre vous, sans des spectateurs autour de vous. Jude 22, 23, voilà un grand verset. Reprenez les uns, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Vous avez déjà assisté à un incendie ? Ces incendies où la mamie, là-haut, au troisième étage, elle crie au secours, au secours, au secours, on ne peut pas l'atteindre par l'escalier parce que la cage d'escalier brûle, alors on monte à la grande échelle. Et le pompier, là-bas, il arrive, allez mamie, venez dans mes bras. Attendez monsieur, là-bas j'ai mes petits oiseaux, j'ai mon petit chat, j'ai mes souvenirs. Mais non, on n'a pas le temps, venez, venez, venez. Qu'est-ce qu'il fait le pompier? Il la laisse avec ses petits oiseaux? Il vous l'empoigne comme ça, il l'arrache au feu. La dame qui nous a amenés au Seigneur, qui est venue nous parler de Jésus à la maison, Madame Journet, elle s'appelait. Elle avait un mari non-croyant, pourtant il était protestant, il avait reçu une bonne culture de la parole de Dieu, mais il ne voulait rien. Et il était victime des gaz de la guerre de 14-18. Et là, sur la fin de ses jours, elle le suppliait de se tourner vers Dieu, il ne voulait pas le faire. Elle est montée à califourchon sur le lit, et là, elle l'a évangélisé pendant un moment avec une forte pression. Et l'homme s'est tourné vers Jésus, et il a été sauvé. Oui, mes amis, on a entendu le prophète Jérémie à qui Dieu a dit, mais Jérémie, va, crie à mon peuple, reviens infidèle, vous vous souvenez? Eh bien, c'est ça, les reprendre et les arracher du feu. Dialogue ou discussion? Voilà, parce qu'en fin de compte, il faut dialoguer dans un couple. Quelle différence y a-t-il entre le dialogue et la discussion? Le dialogue, c'est échanger. La discussion, c'est parler et obliger l'autre à penser comme toi. Ça, c'est pas toujours arrivé. Alors, regardons plutôt la chose. Dialoguer, c'est quoi? C'est dire et expliquer. Voilà. On s'adresse à son mari, on s'adresse à sa femme. Je te dis cela et on l'explique pour qu'il le comprenne. Dialoguer, c'est confronter les points de vue. Tu penses comme ça, moi je pense comme ça. Tu le vois comme ça, moi je le vois comme ça. Dialoguer, c'est trouver un terrain d'entente pour être écouté et compris. Il faut trouver un terrain d'entente. Dans un conflit de couple, vous n'allez pas laisser dévaster le foyer. Il faut trouver un terrain d'entente. Le dialogue, c'est écouter pour comprendre l'autre. On écoute l'autre, mais qu'est-ce qu'elle a bien voulu dire? Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? Enfin, dialoguer, c'est savoir expliquer. Reprendre, conseiller et exhorter. Voilà ce que c'est que le dialogue. Et dans vos discussions, prenez note, je crois que ça en vaut la peine. Alors, comment dialoguer? Hop là. Il faut le faire d'abord avec amour. Si dans l'entretien, dans le dialogue, vous n'avez pas encore une réserve d'amour, ça va être un problème. Mais l'amour, pourquoi? En vue de résoudre un problème et non pour gagner une victoire. Il ne s'agit pas de dire à la fin, tu vois, j'avais raison, hein? C'est pas ça qu'il faut. Mais il faut essayer de résoudre le problème. Et il y a la victoire, c'est quand les deux seront bien en harmonie. Ensuite, il faut le faire avec sagesse. C'est-à-dire, s'efforcer de comprendre l'autre, son mécontentement, son insatisfaction, ou voire même la faute qu'il a commise, pourquoi il l'a commise, qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, éviter le blocage. Et d'ailleurs, il dit, eh bien c'est comme ça, je me tais, je ne dirai plus rien. Et chacun s'enferme dans son coin. Il faut le faire avec soumission. Il faut être capable de se soumettre à la pensée raisonnable de l'autre. Parce que souvent, l'autre a des pensées raisonnables. Mais non, on est têtu, on veut un autre. Voilà, voilà. Et puis enfin, il faut aller plus loin. Il faut avoir foi. Quelle que soit la gravité de la situation, est-ce que vous pouvez croire au pouvoir de Dieu pour vous aider? Oui, 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 mes amis. Dieu, quand il voit un couple se chamailler, mais il est là, il doit regarder ça avec compassion, et il voudrait tellement aider. Voilà ce qu'il veut faire. Alors, que doit faire le fautif? Car, en fin de compte, il y a quand même un qui porte la responsabilité de l'étincelle, qui a mis le feu aux poudres, si je puis dire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, l'Écriture dit ceci, un Jean, un 9, d'abord il doit reconnaître, c'est bien sûr qu'il a fait la faute, hein, mais il doit confesser, si nous confessons nos péchés, il, c'est-à-dire Jésus, est fidèle et juste pour nous les pardonner et surtout pour nous purifier de toute iniquité. Si vous avez commis une erreur, si vous avez commis une blessure, eh bien, il faut en demander pardon à Dieu, mais également au conjoint qui est blessé. Jacques 5, 16 dit ceci, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Dans un conflit, vous savez, on arrive à un stade où il faut confesser les péchés l'un et l'autre. Parce que même si au départ, il y en a un qui n'était pour rien dans le désarroi de tout ça, il vient un moment où il finit par faire et dire des choses qu'il n'aurait pas dû dire. La repentance, qu'est-ce que c'est? Voilà quelque chose d'important. Parce que demander pardon, c'est bien, mais dans certains cas, il faut qu'il y ait plus que ce pardon qui est vrai, qui est sincère, et que Dieu entend, et que l'autre reçoit, entend également. Mais dans 2 Corinthiens 7, 10, la repentance nous est expliquée. D'abord, elle produit la tristesse. La tristesse, selon Dieu, produit le repentance, un salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Si suite à une erreur, c'est une tristesse à la manière du monde, oui, c'est vrai, j'aurais pas dû faire, etc. C'est mes amis, ça ne va pas. Voici, cette tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition? Vous avez remarqué, c'est une succession de sentiments très forts qui poussent l'individu à regretter amèrement sa faute et également ensuite à demander pardon à Dieu et à la personne offensée, bien entendu. Alors la responsabilité de chacun, parce que dans un couple, tous les deux ont une responsabilité. Regardez ce que dit l'Écriture. Il y a des gens qui me disent « J'ai demandé pardon, mais ça ne change pas. » Vous regardez dans les Colossiens, chapitre 3, verset 5. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. » Reconnaissez avec moi que ces choses, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, sont à la base de beaucoup de conflits de couple. Et là, il n'est pas dit de demander au Seigneur de nous en débarrasser. Il est dit que nous devons les faire mourir, car lorsque vous demandez pardon à Dieu, l'Écriture elle est formelle, si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais le péché, vous savez, c'est comme certaines mauvaises racines qui remontent toujours à la surface. Et celles-là, il faut les faire mourir. Regardez Colossiens toujours 3:8. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Écoutez le verbe, renoncer. Là, il faut faire mourir ces mauvais désirs, et là, il faut renoncer à tous ces sentiments misérables. Dire non. Les gens disent, mais j'ai demandé à Dieu de m'en débarrasser. Dieu te dit, renonce. Précisons sur le pardon. Précision sur le pardon. Une personne a dit au Seigneur, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon mari, à ma femme, à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi ?» Si les chrétiens connaissent la réponse, les amis qui sont là, si vous ne connaissez pas la Bible, voilà la réponse. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Vous vous souvenez de notre table de multiplication? 7 fois 7. Comment ça fait? 49. Et vous multipliez par 10, ça fait 490 fois. On n'a pas fini, vous voyez, de se pardonner. C'est quelque chose de formidable. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, précision sur le pardon. Soit Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant ou pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. J'aime cette dernière parole. Savez-vous comment Dieu vous a pardonné? Si vous lisez la Bible, elle vous apprendrait qu'il a pris vos péchés, il les a jetés derrière son dos. Et comme si ça suffisait pas, si quelqu'un essayait d'aller les ramasser pour vous les jeter à la face, l'Écriture nous dit qu'il les a enfouis au fond de la mer. Et la mer, c'est les grandes fosses profondes, vous savez, de l'océan Pacifique, qui atteignent 10 000 mètres et même davantage. Alors, si vous voulez connaître le passé de Charles Gisquet, munissez-vous de mon scaphandre et allez au fond de la mer, et vous verrez ce qu'il en est. Alors, l'amour selon la Bible, car l'amour, voilà quelque chose de grand. L'amour selon la Bible. C'est un texte qui est tiré de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Est-ce que je peux vous demander de le lire avec moi en voix haute? Vous êtes d'accord? Vous allez voir, ça va vous stimuler. Alors on commence. L'amour est patient. Il est plein de... L'amour n'est point... Ouvrez tous la bouche, je vous attends. L'amour ne se vante... Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite. Il ne soupçonne point. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse. Il croit. Et il espère. Et il supporte. Vous allez peut-être me dire... Oh là là, c'est comme ça qu'il faut que j'aime. Eh oui, c'est ça l'amour. Ah, si vous cherchez le véritable amour, vous qui êtes assoiffé du véritable amour, le voilà. Et c'est celui qui doit sauver. Mais jamais je ne pourrai y arriver. Vous en êtes sûr? Regardez la suite. L'œuvre du Saint-Esprit. Dans les Romains, au chapitre 5, au verset 5, il est écrit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Convertissez-vous à Jésus. Soyez baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et là, à chaque fois que vous ouvrirez votre cœur, eh bien le Seigneur, il répondra, l'amour de Dieu, ce sera quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Voilà l'amour que Dieu veut que nous ayons, et il nous donne la capacité. Regardez le cantique des cantiques, chapitre 8, verset 7, verset 6. L'amour est fort, comme la mort. La jalousie, inflexible, comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. C'est très puissant, cela. Alors, une exhortation, Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, nous allons rapidement terminer. 4 mots à retenir. Amour. Sagesse. Respect. Soumission. Voilà 4 mots que vous devez chérir dans votre cœur et mettre à profit dans votre maison. L'amour, on en a déjà parlé l'autre jour, en français un seul mot, vous en rappelez. Eros, qui est le mot désir, le mot qui a donné érotique. Et philéo, qui a donné philanthropique. Et agapé, l'amour profondément, selon 1 Corinthiens 13, ce qu'on a lu tout à l'heure. Ensuite, la sagesse. La sagesse, 1 Pierre 3,7. Il est écrit ceci, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce de Dieu. Et oui, l'homme est parfois dur, rude avec son épouse. L'Écriture nous dit d'avoir de la sagesse, de la souplesse, c'est quelque chose d'important. Il y a ensuite la soumission. Alors que savez-vous sur la soumission? Et vous savez, il y a des gens qui sont terribles. D'abord, Jacques 4, 7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. » La soumission, elle commence par celle qui concerne tout le monde, se soumettre à Dieu. Quand vous serez soumis à Dieu, ça vous sera plus facile de suivre le reste. Éphésiens 5, versets 21 et 22, regardez ce qui est écrit là. « Vous soumettant les uns aux autres, » dans la crainte de Christ, et femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Et c'est ce que je veux retenir. Donc, vous avez vu, on se soumet les uns aux autres, on se soumet à Dieu, on se soumet les uns aux autres, et puis il est demandé aux femmes de se soumettre à leur mari. Est-ce à dire que la femme va devenir une esclave de l'homme menée avec une autorité, comme ça se pratique dans certaines religions? C'est pas du tout ce que ça veut dire. Regardez bien ce qui est dit. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au... Alors je m'adresse à vous, les dames. Est-ce que ça vous est difficile de vous soumettre à Jésus? Oh, les dames, répondez à voix haute. Est-ce que ça vous est difficile de vous soumettre à Jésus? Et pourquoi? Parce que vous l'aimez. Vous l'aimez pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur. Alors les maris, vous voulez que votre femme soit soumise comme à Christ? Soyez des seigneurs et elles se soumettront. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Et oui, le respect du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors une parole de Dieu dans l'Ecclésiaste. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Je vous l'ai montré hier soir, la corde à trois fils. Dieu, le mari et la femme ensemble, un couple qui est en communion avec Dieu, et c'est ça qui est beau. Alors c'était la famille. La famille, le lieu, les conflits et la solution. Et je vous dis simplement à tous, soyez bénis, et pas seulement ça, j'y ajoute, hein, aimez-vous. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te demande de bénir ta parole. Je te supplie, mon Dieu, qu'elle aide chacun à se situer dans sa relation avec son épouse.